Le paradoxe, c'est que on a l'impression que tout baigne dans le religieux aux États-Unis. Il y a beaucoup de religieux dans le discours politique, et en même temps, si on s'intéresse à la fondation des institutions politiques américaines, de la Constitution fédérale de 1787, eh bien, on a une authentique laïcité qui met l'accent sur une séparation de l'Église et de l'État, et même plus, Jefferson parlera de la nécessité de créer un mur de séparation entre l'Église et l'État, et ça, c'est quelque chose qu'on a oublié et qui est lié au fait que aux États-Unis le système est un peu un croisement d'une politique héritée du siècle des Lumières, une époque où on est très sceptique ou très critique de toutes les religions, et d'une autre lecture de l'histoire de l'identité nationale américaine qui elle se construit plus tard au milieu du 19e siècle et qui critique la raison des Lumières, critique l'oubli de la religion et remet à la mode une réflexion de type religieuse qui redécouvre d'autres ancêtres, eux alors tout à fait religieux, qui sont les puritains qui étaient venus aux États-Unis dans les années 1620.
Qu'est-ce qui fait qu'il n'y ait pas de sentiment négatif à l'encontre des religions en cette fin de 18e siècle?
Les religions, à l'époque de la guerre d'indépendance, ont soutenu les politiques ont été favorables à la guerre d'indépendance, avec une seule exception, bien sûr, qui est la religion anglicane, la religion de la monarchie anglaise, et c'est la seule église qui, elle, sera sanctionnée et qui sera obligée de s'américaniser, qui aujourd'hui a pris le nom d'église épiscopalienne et qui a dû rompre les ponts avec l'archevêque de Canterbury. Mais toutes les autres religions, qui sont des créations locales, dans le fond, n'ont pas du tout eu ce problème de hiérarchie et n'ont pas eu à couper le cordon ombilical avec la mère patrie, puisque c'est des religions qui s'étaient constituées en Amérique même.
Vous disiez qu'il y avait eu une sorte d'offensive contre la laïcité des débuts des États-Unis. Alors, qu'est-ce qui défend aujourd'hui cette laïcité des pères fondateurs?
Les vrais gardiens de la laïcité aux États-Unis, ce sont les juges de la Cour suprême. C'est-à-dire, ce sont eux qui, envers et contre tous, malgré un discours politique religieux, vont interdire la prière dans les écoles publiques, dans une décision importante de 1962, vont interdire qu'on déploie les 10 commandements ou une crèche dans un espace public, que ce soit les marches d'un tribunal ou les murs d'une école, vont interdire des prières dans un stade de football américain si ce stade appartient à une entité publique, vont même interdire la lecture de passages de la Bible dans une école publique. Donc il y a toute une série de mesures de renforcement, dans le fond, de la séparation de l'Église et de l'État, qui font que aux États-Unis, la laïcité, elle reste forte et d'une certaine façon même plus vigoureuse que dans une société comme la société française, parce que l'État ne donne pas d'argent aux écoles confessionnelles. Il n'y a pas du tout de financement public des écoles confessionnelles. Fondamentalement, dans le système de la laïcité américaine, si vous voulez envoyer vos enfants dans une école confessionnelle, eh bien, il faudra payer le plein tarif. Et le plein tarif, aujourd'hui, c'est beaucoup plus qu'à l'époque où il y avait beaucoup de moines ou de frères ou de pères irlandais qui avaient des écoles confessionnelles peu coûteuses. Mais aujourd'hui, c'est 10 000, 15 000 dollars par an pour mettre vos enfants dans une école religieuse. Donc là, il y a une laïcité qui reste forte, même si, évidemment, il y a un camp conservateur au sein de la Cour suprême qui souhaiterait ébranler un peu ce mur de séparation entre l'Église et l'État et qui souhaiterait le remettre en cause.